hors de scène, Tiffany Le Maine. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans Bord de scène, l'émission qui vous fait découvrir le théâtre au travers de ceux qui en ont fait leur passion. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisque je reçois Pierre Marty, administrateur du Théâtre du Pavé de Toulouse. Le 29 juin, le Théâtre du Pavé organise une soirée de soutien à l'Ukraine, l'occasion d'une table ronde autour de la culture, de sa capacité à parler de l'actualité et donc de son importance. Pour rester dans l'Est du monde, je vous propose ensuite de découvrir ou de redécouvrir le conte de la Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. Mais avant tout, je vous propose d'écouter le très court texte écrit par le Théâtre du Pavé à l'occasion de la soirée de soutien. Une soirée de soutien comme une évidence. Une soirée de soutien parce qu'un peuple souffre. Parce que le monde souffre dès que quelqu'un ne joue plus le jeu de la démocratie ni celui du respect de la vie. Une soirée de soutien, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. La goutte d'eau du colibri qui veut éteindre l'incendie. Ridicule, insignifiant, peut-être, mais on aura fait notre part. Une soirée de soutien à l'espoir, à la colère, à la paix, à la fraternité, à l'Ukraine. Je suis avec Pierre Marty, l'administrateur du théâtre, qui vient nous parler de la soirée de soutien organisée pour l'Ukraine. Avant de commencer, c'est quoi un administrateur théâtre ?
Alors, l'administrateur, c'est l'homme de l'ombre, celui qui gère l'organisation du théâtre, à la fois sur l'organisation de l'accueil des compagnies, la préparation des venues des artistes, la gestion du personnel, la gestion des finances, des rapports aux collectivités, rapport des recettes. Donc voilà, je suis à la fois responsable des ressources humaines, responsable financier, responsable administratif.
D'accord. Alors, d'où elle vient l'idée de cette soirée ? Comment est-ce que ça arrivait sur le tapis ?
En fait, c'est une discussion qu'il y a eu avec le directeur artistique, Francis Azéma. Mmh. On commentait l'actualité, qui est quand même assez dense en ce moment. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, à notre niveau. Alors, encore à notre humble niveau, on disait on peut pas ne rien faire. Donc l'idée de mettre une soirée de soutien est venue assez rapidement. Après, c'était sous quelle forme ? Là, effectivement, on avait une programmation qui était déjà arrêtée. Et il se trouve que le spectacle Le Roi Semeur est un spectacle qui a une autre lecture actuellement par rapport aux événements internationaux, puisque la pièce traite de la fin d'une dictature, d'un roi avec un monde qui s'écroule, où la notion de pouvoir est au centre de la pièce. On s'est dit que ça a un écho particulier et on s'est dit on va le faire sur la première représentation, qui est souvent une représentation, il y a souvent du monde sur les premières représentations. Donc on a dit, la seule chose qu'on puisse faire à notre niveau, c'est de reverser l'intégralité des recettes de la billetterie à un organisme qui intervient sur le terrain. Donc effectivement, on a contacté la ville de Toulouse, qui est en partenariat avec la Croix-Rouge internationale, et on s'est dit, on va reverser l'intégralité des recettes à la Croix-Rouge internationale, qui intervient déjà actuellement sur le terrain pour aider les réfugiés ukrainiens. Donc on s'est dit, c'est une manière pour nous de contribuer à notre petit niveau, à l'effort qui est fait pour soutenir cet événement-là. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà eu fait par le passé, puisque au moment de la Syrie notamment, on avait fait une soirée exceptionnelle en plein air dans la cour du théâtre, où on avait demandé à tous les artistes de la saison de se prêter à un jeu comme ça, d'organiser une soirée où chaque artiste, on leur disait, vous avez 5-10 minutes pour présenter ce que vous voulez artistique. Et on a une soirée comme ça qu'on a fait un peu au pied levé, qui avait énormément marché. Quasiment tous les artistes de la saison avaient répondu. Donc on avait déjà eu l'occasion de tester ça pour venir en aide aux réfugiés syriens. Et puis cette fois-ci, c'est venu assez naturellement. Mais c'est vraiment au détour d'une discussion, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Est-ce qu'il y avait une importance, en fait, d'agir pour l'Ukraine ou...
On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. C'est pas parce que c'est proche de chez nous, puisqu'effectivement, on l'avait déjà fait sur la Syrie. On le fait comme ça quand il y a des événements. Dès qu'on peut intervenir sur ces... aider à notre niveau. Encore une fois, ça reste très minime par rapport à l'ampleur de ce qu'est de cet événement-là. Mais on se dit, au moins, on apporte notre petite pierre. C'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan. Mais si tout le monde s'y met un petit peu comme ça, ça peut quand même être des soutiens... assez, voilà, assez important. C'est plus symbolique que financier, parce que voilà, même si on arrive à 1 500 ou 2 000 euros pour une soirée, c'est toujours ça d'apporter. Et en même temps, on a proposé aux spectateurs de pouvoir, sur place, s'ils le désirent, faire des dons plus conséquents, puisque nous, les billetteries ne changent pas en tarif. Mais si les gens veulent aussi donner directement à la Croix-Rouge internationale, ils pourront le faire le soir même.
D'accord. Est-ce que vous saviez que Toulouse était jumelée avec Kiev avant d'organiser cette soirée?
Non, je l'ai découvert en cherchant, je ne savais pas du tout. Il faut être honnête là-dessus. Hein. C'est que voilà, moi, je suis juste parti sur les informations internationales. Et quand j'ai contacté la ville pour voir, essayer de voir qu'est-ce que la ville mettait en place, et là, j'ai découvert le jumelage, mais en plus, qui date d'il y a très longtemps. Ouais. Donc, je me suis dit, ah oui, en fait, là, ça fait plus de 30 ans, je crois, plus de 40 ans qu'on est jumelé. Donc, je ne savais pas, je l'ai découvert à cette occasion-là.
Donc ça s'est fait avec la ville de Toulouse.
Oui. Okay. En fait, c'était voilà, comme nous, on est dans un bâtiment qui appartient à la ville de Toulouse. On est également subventionné par la ville. Il faut aussi, voilà, dans ce genre d'opération, qu'on tienne au courant nos tutelles de référence. Donc nous, on est aidé par le département de Lot-Garonne et la ville de Toulouse. Donc il était normal aussi de faire coïncider notre action avec l'action qui était déjà en place par la ville, puisqu'ils ont déjà mis en place sur leur site internet des actions dans ce sens-là.
Elle s'est organisée en combien de temps cette soirée, à peu près?
En une soirée. Non, à partir du moment où on a décidé qu'on le faisait, on a prévenu les artistes du spectacle, bien sûr, qui ont dit oui de suite, sur le principe, voilà, de jouer au profit de la Croix-Rouge, ça paraissait une évidence. Et après, c'est un travail de communication qu'on a fait avec ma collègue pour communiquer le plus rapidement possible auprès de tous les partenaires médias, webzines, réseaux sociaux, voilà, tous les supports possibles, et le tout public, voilà, fonctionner rapidement en disant, voilà, nous, au pied levé, on fait ça. Ça ne changeait pas notre organisation interne, puisque le spectacle, de toute façon, était prévu. Mais par contre, c'était juste un travail de communication pour faire en sorte que cette soirée-là soit remplie au maximum. Donc voilà, le fait de solliciter aussi tous les partenaires médias permet de faire aussi un relais de communication autour de cette soirée-là.
Et au final, ça s'est donc organisé en fonction de la pièce.
Ben, en fait, c'était le... Voilà, parce qu'on s'est posé la question il y a quoi, il y a 15 jours de ça.
D'accord.
Donc le conflit ukrainien avait déjà bien commencé et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y avait un spectacle qui a cette semaine qui parlait de la dictature chilienne. Là aussi, on est sur un sujet de dictature, mais comme c'était dans notre petite salle, ça avait moins d'impact, ouais. Parce qu'effectivement, là, il y a une petite jauge, donc on pouvait, ça parle effectivement aussi d'exil, de réfugiés, donc c'est très étrange que l'actualité rattrape un peu notre programmation. Mais on a préféré le faire sur le roi Semeur, qui avait aussi beaucoup d'écho par rapport au pouvoir, par rapport à ces rois indétrônables. Donc on s'est dit, ben, on va privilégier la grande salle, parce qu'on a 200 places en salle, et que si on arrive à faire une salle remplie de 200 personnes, ça fera un bon montant à reverser à la Croix-Rouge.
Et le choix de la Croix-Rouge, ça s'est fait avec le relais avec la ville de Toulouse.
Avec la ville de Toulouse, voilà. D'accord. Qui avait déjà ce partenariat. Alors sur leur site, ils ont plusieurs associations avec lesquelles ils travaillent, qui interviennent de différentes manières. Alors nous, on avait déjà travaillé avec la Croix-Rouge, notamment justement pour les réfugiés syriens. On avait également fait une soirée de soutien pour tous les hôpitaux de Toulouse au moment de la première vague. Il fallait qu'on soutienne, nous, lorsqu'on a repris les activités du théâtre, on s'est dit, ben voilà, nous on a été aidés pendant la fermeture des lieux, mais pareil, avec la Croix-Rouge, on a fait une soirée de soutien aux hôpitaux de Toulouse. Donc là, voilà, donc c'était quelque chose qu'on avait déjà mis en place avec la Croix-Rouge.
Ça, c'était il y a combien de temps?
C'était en juillet 2000... 2020. Voilà, lorsqu'on a réouvert après le confinement, on a dit on fait une première soirée de réouverture, les théâtres réouvrent, la programmation reprend, mais voilà, on va aider. Donc là, c'était vraiment une action avec les hôpitaux de Toulouse.
Ouais. D'accord.
D'ailleurs, on avait invité à ce sujet-là, il y avait une part de toutes les recettes étaient reversées aux hôpitaux de Toulouse, et on avait invité aussi tout le corps médical, qui venait, ils étaient invités à la soirée, voilà, à toutes les représentations.
Alors, c'est marrant parce que on pose un peu souvent la place de la culture en temps de conflit, du fait que c'est souvent des choses qui sont un peu mises de côté. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Il y a un peu une volonté de le préserver ou de montrer qu'il y a une importance ou pas là-dedans?
Ben, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, on est dans une activité de loisir, en tout cas de plaisir. C'est compliqué quand le monde un peu part par de biais et que voilà, il y a des mauvaises nouvelles. C'est compliqué de continuer à faire comme si de rien n'était. Donc, on peut continuer notre travail comme n'importe quel, voilà, quel salarié. La vie continue pour nous. C'est beaucoup plus compliqué pour eux, mais pour nous, on continue. Donc, c'est vrai que quand on est dans une activité de plaisir, c'est toujours un peu, il n'y a pas de plaisir coupable. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin aussi de s'évader aussi, de se changer les idées par rapport aux informations qui sont un peu anxiogènes en ce moment. Donc, c'est une espèce d'ambiguïté sur l'art par rapport en temps de conflit. Alors nous, on n'est pas en conflit ouvert direct, mais c'est vrai que la question se pose. Après, on ne va pas arrêter notre activité, et au contraire, je pense qu'elle fait du bien.
Ouais.
Et après, quand les pièces comme celle que nous avons la semaine prochaine, Le Roi se meurt, quand les pièces en plus traitent de ces sujets-là, ça, d'un seul coup, on se rend compte que voilà, c'est jamais fini. La pièce, je ne sais plus en quelle année elle a été écrite par UNESCO, mais c'est il y a longtemps. Et finalement, voilà, on a beau chasser le passé, ça nous rattrape très très vite. Et la question du dictateur qui s'accroche au pouvoir et qui décide de la vie et de la mort des gens, finalement, la pièce traite de ça. Et d'un seul coup, la pièce, elle a un autre écho. Et en plus, il se trouve qu'à la création, là, le spectacle est une reprise, à la création du spectacle, lorsque le directeur Francis Azéma a créé la pièce, il voulait faire une référence à tous ces puissants du monde, et notamment aux dictateurs. Et dans la pièce, il y a un moment, une projection dans le décor de visages de grandes figures politiques. Donc ça a commencé par De Gaulle, et puis après ça va aussi sur des personnages plus emblématiques ou plus problématiques comme Poutine, qui était déjà dans le spectacle.
D'accord, il était déjà dans le texte avant.
Et d'un seul coup, on se dit, mais... Waouh!
Du coup, ça.
Voilà, d'un seul coup, voilà, parce qu'on a aussi, voilà, on avait le gouvernement chinois, on avait le nord-coréen, on a des figures comme ça qui sont des figures dictatoriales très puissantes qui se sont installées, accrochées au pouvoir. Ces gens qui s'accrochent au pouvoir, qui sont restés longtemps au pouvoir, les indétrônables. Et il se trouve qu'à la création, Poutine était déjà projeté sur le décor. Donc d'un seul coup, ça prend notre ampleur dans le contexte actuel. Donc ça, les gens vont pas simplement voir un spectacle du théâtre de l'absurde comme UNESCO fait, mais d'un seul coup le théâtre de l'absurde, on est vraiment sur un univers complètement onirique dans le traitement, mais par contre la réalité nous a rattrapés.
Après, le théâtre absurde, ça parle de toute façon de l'actualité.
Voilà, la pièce, elle dénonce ça, elle dénonce vraiment les rois et la déchéance autour des rois, le côté autocentré de ces personnalités au pouvoir qui d'un seul coup n'ont plus de recul sur la vraie vie. Et on se dit, mais voilà, là on est en plein dans cette problématique de ces puissants qui se déchirent au détriment d'une population qui, elle, subit.
C'est vrai qu'actuellement, même sans parler de dictature, c'est vrai que le côté d'être tout complètement détaché de la réalité, finalement, ça résonne un peu avec tout, quoi.
Voilà, ça aurait pu marcher. Ouais. À l'époque, on a créé le spectacle. Voilà, on aurait pu mettre Trump aussi dans le diaporama du spectacle. C'est il y a un moment où on se dit, mais ce n'est pas que dans les dictatures, même dans des grands pays dits civilisés. Des fois, on se dit, mais le recul sur sur la problématique. Concrète du quotidien, il y en a certains qui vont très très loin qui oublient un peu les fondamentaux. Là, on est en pleine campagne présidentielle et on se dit, mais les fondamentaux ne sont même plus traités. Donc,
il y a tout un énorme décalage, même. Alors, j'ai pas énormément de culture là-dessus, mais il y a toute une problématique autour de l'état de santé mentale des dirigeants. Mm-hmm. Donc, en fait, effectivement, il y a un vrai trouble en fait qui se développe. Mm-hmm.
Ben, c'est la maladie du pouvoir. C'est, ouais. UNESCO, dans la pièce, le traite très bien. Cette espèce de recul, d'un seul coup, l'homme au pouvoir, ce roi, est en train de tout perdre. Son monde s'écroule. Il est lâché de toutes parts. Son environnement proche se réduit à quelques personnes. Et son monde s'écroule. Et il s'accroche à des choses complètement dérisoires qui n'ont plus aucun sens. Et finalement, voilà, c'est... Trump a montré l'exemple de ça. C'est que son monde s'est écroulé au bout d'un moment.
Ça devient dangereux.
Et ça devient très, très dangereux. Ouais. Alors, il n'y a pas de question d'action militaire dans la pièce. Mais c'est vrai que, voilà, finalement, il en revient à des... D'un seul coup, il sait qu'il va mourir, et avant de mourir, il veut des choses qui sont très terre à terre, qui n'ont aucun sens pour quelqu'un qui est au pouvoir, et avec un monde qui s'écroule, il ne pense qu'à lui. Et ça, c'est très symptomatique des hommes de pouvoir. Je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est vrai que c'est symptomatique, en tout cas.
Parce que finalement... Est-ce que finalement, la pièce, elle résonne beaucoup avec l'actualité, ça, vous l'avez très bien dit. Ah, attendez que je... Est-ce qu'il y a un peu un message à faire passer dans cette soirée ? même par rapport au show, au fait que ce soit
pas
ce
plus,
jour-là ou...
pas plus pour cette soirée que les autres. Enfin, le théâtre a toujours eu aussi... Il y a deux axes dans la partie spectacle vivant. Il y a une partie pure divertissement. Voilà, ça c'est la première étape. Et puis il y a la réflexion. Il y a beaucoup de pièces qui sont écrites, ont du sens, font réfléchir. Voilà, la culture a aussi cette mission-là, oui, d'amener des problématiques. Les auteurs s'en sont emparés, les auteurs du répertoire, mais depuis très longtemps. Des gens comme Molière, qu'on a beaucoup traité par exemple, au Théâtre du Pavé, Molière a toujours critiqué ses contemporains, les gens de pouvoir, la religion. Donc cette critique-là dans le théâtre, elle est très présente depuis très longtemps. Les auteurs contemporains continuent. Alors, moins sur des spectacles qui sont plus des spectacles humoristiques ou des comédies ou des café-théâtre, où là on est sur du divertissement pur, mais des fois des sujets sont abordés de manière ironique, satirique, mais il y a un fond qui est toujours chargé. La culture, de manière générale, a cette notion-là de ne pas oublier les fondamentaux. Et ça marche aussi bien sur le spectacle vivant que sur des installations plastiques, des expositions. Donc voilà, je pense que notre mission est de continuer ça. Ça, voilà, faire toujours ramener les gens à penser le monde, à réfléchir le monde, et les spectacles
c'est
ne sont qu'un accompagnement là-dessus. C'est le but de la culture, enfin, je crois à la notion de divertissement aussi, ça fait du bien, mais je crois aussi à cette notion de pédagogie. Donc voilà, donc la pièce, elle, de manière déjà au départ, avant même qu'il y ait le conflit ukrainien, elle traite déjà de ça, de cette problématique des hommes de pouvoir qui s'accrochent au pouvoir. Donc, et ça fait réfléchir, même si c'est encore une fois une pièce complètement délirante, complètement absurde, complètement décalée, déjantée. On ne sait même plus où on est au bout d'un moment parce que on part dans un univers complètement onirique.
Je pense que c'est un peu le but de l'absurde aussi, de dénoncer l'absurdité du monde dans une mise en scène.
Exactement, c'est une autre manière de parler du monde, mais de manière décalée. Donc voilà, après cette soirée-là. Comme je disais, c'est une goutte d'eau. C'est juste, voilà, qu'on avait envie, nous, de faire quelque chose, mais encore une fois, c'est. Voilà, les gens viennent, les gens donneront, les gens... Voilà, là, beaucoup de gens ont réservé déjà, donc je pense que la soirée devrait être bien remplie.
Ça veut dire qu'il faut se dépêcher.
Voilà, il faut se dépêcher de réserver. Mais c'est vrai que voilà, j'espère que les gens ne vont pas s'arrêter à ça et que les gens viendront les autres soirs et continueront aussi à donner. On essaie de faire en sorte de laisser, nous, la partie toute la semaine, la partie de dons spontanés. On ne peut pas reverser toutes les recettes parce qu'effectivement, on a aussi un équilibre économique du théâtre. Mais au moins, sur cette soirée-là, voilà, cette soirée, pas plus que les autres, elles doivent continuer à tirer. Et le fait, ne serait-ce que de dire qu'on peut donner à la Croix-Rouge, qu'on peut aider, voilà, je crois que les médias le font, nous on le fait, une manière aussi d'accompagner tout cet effort qui est fait pour soutenir un événement et une tragédie humaine.
C'est dommage un peu de critiquer la culture et de la mettre de côté quand on sait que justement ça parle du monde, en fait.
Oui. C'est toute l'ambiguïté. Là, on est en train de partir un peu dans tous les sens au niveau culturel. Quand on voit quand des collectivités demandent à des artistes institutionnalisés de prendre position par rapport au conflit, je trouve que là, le danger, il est là.
C'est le problème qu'il y a eu en Russie, dans les conservatoires de musique, ils ont...
Au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Qu'on ne doit plus monter de Tchekhov, on ne doit plus monter d'artistes russes parce que ce sont des Russes. Enfin, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens, c'est parti dans tous les sens. Et même des chefs d'orchestre, des directeurs de théâtre, de salles de spectacle, des chorégraphes, qui sont d'origine russe, pourquoi au bout d'un moment on doit leur demander de se positionner? Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens.
Qu'ils fassent leur travail, au contraire. Ouais. Leur travail, s'ils sont dans cette dynamique-là, c'est qu'ils ont aussi, cette accointance avec le pouvoir, elle est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, mais pourquoi on demande à des artistes de se positionner? À Toulouse, ça s'est très très mal passé au niveau de Toulouse. Mais voilà, il y a un moment où tous ces artistes et tous ces auteurs, ces compositeurs, au moment, je dis, mais on est en train de tout mélanger. Le problématique n'est pas une problématique du peuple russe. La problématique, c'est une problématique au niveau du pouvoir.
C'est tout le problème qu'on a eu, parce qu'on a beaucoup censuré les artistes russes. Mmh. On a un peu... Je sais qu'il y a quoi, il y a Instagram, Facebook qui ont censuré leurs applications, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'au final ça ne fait que pénaliser le peuple russe. Et à titre personnel, je ne pense pas que ça va inciter Poutine à changer la situation.
Non, après, je pense que la propagande existe, l'aveuglement des peuples existe particulièrement en Russie, on le sait, au niveau de la communication qui est tout est verrouillé. Il y a un moment où il ne faut pas se tromper de combat. Les artistes qui font de la propagande, propagande et qui sont des pro-Poutine ou qui sont financés directement par le gouvernement, je pense que là, effectivement, il y a des actions à faire. Mais plein d'artistes sont apolitiques. Non, ils ne sont pas politiques parce que leur spectacle le sont de fait, mais ne sont pas forcément, ne cautionnent pas une décision qui est une décision militaire, politique. Les artistes n'ont rien à voir avec ça. Donc, au bout d'un moment, on ne doit censurer que des artistes qui seraient dans la propagande
ou qui travaillerait en Russie, les artistes, ils sont fortement incités à travailler avec le
gouvernement. Voilà. Eux, ils n'ont pas le choix. Par contre, les artistes qui sont les artistes internationaux qui sont dans le monde entier, ils ont aussi cette liberté d'expression et de création. Après, s'ils cautionnent la propagande, on ne peut pas laisser faire. Parce qu'effectivement, on doit lutter contre la propagande. Par contre, ceux qui n'avaient rien demandé et qu'on leur demande de se positionner, je trouve ça très dangereux. Ça, c'est très dangereux, parce que là, c'est une dictature inversée.
C'est dangereux, et en même temps, c'est, entre guillemets, utile, parce que quand on sait que la culture, ça invite à réfléchir sur le monde, que ça apporte une réflexion, et que donc, ça peut, quelque part, entre guillemets, influencer, même si c'est pas forcément le bon mot, c'est une bonne... ça peut être utile, entre guillemets, pour un dirigeant.
C'est là où je parle du danger de la propagande au niveau des artistes. La plupart des artistes internationaux qui interviennent, un chef d'orchestre, il faudra m'expliquer la propagande à travers la direction d'un orchestre philharmonique. Elle est où, la propagande ? Il y a un moment, il y a une composition qui est faite. Est-ce que sa manière de diriger un orchestre philharmonique peut être de la propagande ? Il faudra qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique comment on peut faire la propagande de Poutine en dirigeant un orchestre philharmonique. Je n'ai toujours pas compris. Donc là, il y a un moment où je me dis, ça, c'est pas bien. Après, lorsqu'un artiste s'exprime, si d'un seul coup, il s'exprime pour cautionner une action militaire, une invasion d'un pays, une invasion, là, je me dis, là, effectivement, il dépasse son rôle d'artiste, il se place politiquement avec les conséquences que ça peut avoir. Par contre, demander à un artiste de se positionner, je dis, mais ça veut dire quoi ? Il y a un moment, il y a un côté interrogatoire qui me déplaît profondément. On fait exactement ce qu'on reproche au camp adverse.
C'est-à-dire qu'il
y a un moment, il
ne
faut pas demander aux gens de faire un choix. Les gens se positionnent, eux, s'ils le désirent. Mais les obliger à faire un choix alors qu'eux parlent de leur art, je trouve ça très nocif, ne serait-ce que pour la liberté d'expression.
Oui, ça porte atteinte finalement à la liberté, parce que l'art, c'est l'un des concepts les plus libres, finalement.
Mais c'est vrai qu'on demande aux artistes. Pourquoi on demande aux artistes russes de se positionner ? Je trouve ça terrible. C'est terrible. Je trouve ça terrible. Ils le font s'ils le souhaitent, mais non. Voilà, on peut avoir une conviction personnelle. Mais à partir du moment où on ne fait pas de propagande en parlant de ça, je dis pourquoi la personne. Si la personne elle cautionne cette action-là, mais qu'elle n'en parle pas, c'est son choix. Voilà, je ne le cautionne pas. Ouais. Mais c'est son choix. Elle n'utilise pas, la personne publique n'utilise pas sa médiatisation pour faire la propagande. C'est juste ça qu'il faut éviter. Et quand on leur pose la question, ils se retrouvent en position très bancale. Je détesterais qu'on me demande pour qui je vais voter aux élections présidentielles, par exemple.
C'est un
choix personnel. Après, effectivement, s'il y a un choix politique, on assume sa position et les conséquences que ça peut avoir.
C'est marrant parce que sur le fait de prendre position, je le ramène un petit peu à la pièce Le Roi se meurt, parce que finalement, ça ne demande pas de prendre position, mais il y a quand même un espèce de parti pris, ou pas ?
Est-ce que... Oui, mais le parti pris, il y a d'abord un parti pris de l'auteur. L'auteur, quand il écrit une pièce, il a envie de dénoncer ou pas. En l'occurrence, là, il se moque des puissants. C'est du Ionesco tout craché. Ionesco qui pouvait être dictateur aussi à sa façon dans le quand il montait les pièces, quand il écrivait qu'il les montait. Donc il y avait un petit côté dictateur. Il y a une espèce de moment de schizophrénie entre l'auteur et ce qu'il écrit.
Quelque part, on parle de soi aussi.
Ça, c'est la première chose. Après, il y a le choix de mise en scène. Là, par exemple, sur cette pièce-là, le spectacle avait été créé en 2018, je crois. À la création du spectacle, Francis Azéma avait souhaité mettre au coup de projecteur et faire un écho plus contemporain. Donc, donner une explication à quelque chose qui n'était pas dit clairement dans le texte. On parlait juste de l'homme au pouvoir et de la folie du pouvoir. Lui, il l'a ramené sur quelque chose de très concret. Quand, à partir du moment où on commence à projeter des visages de personnalités réelles, on s'éloigne de l'absurde. C'est le risque aussi de prendre ce biais-là. C'est un choix volontaire qu'a fait le directeur, de dire je vais l'amener dans deux univers très contemporains, c'est-à-dire les hommes au pouvoir des dernières décennies. Et le deuxième choix, c'était de parler de ce qui était la réalité virtuelle. Et donc, il a pris vraiment deux axes qui sont un très concret, un très virtuel, mais qui est une montée en flèche de la vie à travers le monde virtuel. Et donc, il a fait confronter ces deux univers sur un texte qui était complètement décalé. Donc, c'est vraiment un choix. Donc là, le parti pris du metteur en scène ramène à un truc politique. Donc, quelque part, il dénonce aussi cette notion. Donc, il a accentué ce qui était sous-jacent dans la pièce. Il l'a accentué, il l'a assumé. Donc, effectivement, là, il y a un discours politique à travers la mise en scène de Francis Azéma. Mais effectivement, pour dénoncer quoi ? Dénoncer les hommes au pouvoir, et on a vu les dégâts. Et on les voit encore plus aujourd'hui. Ouais. Donc après, voilà, est-ce que c'est enfoncer des portes ouvertes de dire ça ? Je ne crois pas. Mais c'est vrai que quand les événements nous rattrapent, on se rend compte que c'est bien de rappeler aux gens qu'il y a des hommes dangereux qui ont un bouton rouge devant eux.
Et c'est ce qui est un peu terrible, c'est qu'on s'attend presque... à voir débarquer une bombe nucléaire un beau jour.
Voilà, donc la menace, elle y est, on la sait, on la craint, on essaie de l'éviter au détriment d'un peuple qui est en train d'être décimé pour éviter une troisième guerre mondiale. Donc quand on a la pièce, tout explose, tout va finir, on le sait. La pièce, dès le départ, annonce la couleur. Dans 2 heures, le roi va mourir, le monde va exploser. Voilà, et nous, on est en train de regarder les informations, on se dit, mais à quel moment tout va péter ? Donc, c'est vrai que c'est très étrange de ce coup, la pièce, elle résonne différemment. Ouais. Mais bon, c'est encore une fois, là aussi, la culture doit pouvoir permettre aussi d'éclairer ce monde-là, qui des fois s'éclaire tout seul. Hein. Là, d'un seul coup, ça nous ouvre les yeux sur des choses qu'on n'avait pas envie de voir depuis des années. Ça fait des années que Poutine est au pouvoir et qu'il avait annoncé la couleur. On n'a pas voulu le voir. Voilà, au niveau de la culture, on en remet une couche pour dire attention, il y a des gens dangereux. Là, maintenant, ce n'est pas attention, il y a dangereux. Vous voyez, il y a des gens dangereux. C'est la réalité qui nous a rattrapés. Donc, nous, on est sur le virtuel dans le spectacle, mais la réalité est plus violente.
Là, quelque part, le virtuel permet de parler du réel.
C'est ça.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que la culture était un peu partie dans tous les sens et vous avez parlé de Toulouse d'un moment. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu quelque chose en fait à Toulouse qui...
Alors, je ne vais pas développer pour la simple et bonne raison, c'est que le Théâtre du Pavé est dans un lieu municipal financé par la ville de Toulouse.
D'accord.
Donc, comme je ne suis pas responsable de l'association, moi je suis responsable administratif, j'ai un devoir de réserve là-dessus. Après, la ville de Toulouse a demandé à un artiste local de se positionner. C'est ça que je peux dire. Et du coup, ça a donné une démission. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je suis très gêné par ça. Je n'aurais pas aimé me retrouver dans la position de cet artiste-là au nom de la présence et des financements de la ville. Donc c'est un peu compliqué. Ce n'est pas que je me sens muselé, c'est que je ne me sens pas légitime pour critiquer ça. Parce que je trouve dommage que ça se soit passé comme ça et que la ville de Toulouse ait imposé à des artistes ressortissants russes de se positionner. Après les gens ont envie de faire le raccourci, mais c'est vrai que c'est pas à moi de condamner ça, parce que en le condamnant, je condamne aussi le Théâtre du Pavé pour ça. Donc je préfère rester un peu en réserve là-dessus. Après, je pense que personne n'est dupe sur ce qui s'est passé et la manière dont ça s'est passé.
C'est sûr que c'est un peu dommage. Mais c'est terrible d'en arriver là, parce qu'on pourrait croire que c'est un danger d'être subventionné par des pouvoirs publics. Parce qu'on a
je le vois, nous, au niveau du Théâtre du Pavé, on n'a jamais eu aucune censure. C'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment de la ville de Toulouse, on est subventionné par la ville de Toulouse pour le fonctionnement du lieu. On n'a jamais eu de cahier des charges nous imposant un type de programmation ou des auteurs particuliers.
Ouais,
on a une totale liberté. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'il y a des finances publiques que ça verrouille. Après, c'est plus, moi, là, je mets une précaution là-dessus, parce que je parle en mon nom et que je parle aussi au nom du Théâtre du Pavé. Donc, je veux pas, il y a ma position personnelle et puis il y a celle du pavé. Notre position, elle est, pour l'instant, quelle que soit la décision politique de la ville de Toulouse, nous, on va faire à notre niveau une action pour soutenir les aides aux réfugiés ukrainiens. C'est politique aussi. C'est notre manière de dire, nous, on participe comme ça. Et on n'a pas demandé l'autorisation à la ville de Toulouse de faire une soirée de soutien. Au même titre que pour la Syrie, on ne s'est pas posé la question, pour les hôpitaux de Toulouse non plus. Et si ça ne leur convient pas, ils nous le diront. A priori, il n'y a pas de raison. C'est vrai que si d'un seul coup, on se mettait à faire un meeting politique pour... un élu d'extrême droite, la mairie pourrait nous dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et à ce moment-là, on dira s'il doit y avoir des meetings politiques au Théâtre du Pavé, il faut, alors à ce moment-là, jouer la notion d'équité, il y en aura pour tout le monde. C'est que tous les politiques doivent pouvoir le faire. On a eu ça pour les municipales à Toulouse, par exemple. Il était hors de question que la ville de Toulouse prenne le lieu pour faire une campagne électorale du maire sortant. Par contre, on a eu une demande du département. qui voulait faire une réunion publique ici. On dit OK, mais à ce moment-là, on dit à tous les partis politiques, si vous souhaitez faire, vous avez le droit. C'est au nom de l'équité de la parole politique. Ça ne dit pas qu'on cautionne tous les mouvements, mais par contre, c'est être juste par rapport à... C'est un système démocratique. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de... Il y a des lieux en France, ça existe, on l'a vu, sur des municipalités, notamment des municipalités d'extrême droite qui ont imposé des lignes artistiques, des auteurs, ça c'est grave, là, quand la... mais la plupart du temps, les subventions publiques ne conditionnent pas la parole culturelle, politique culturelle.
On ça, a c'est... cette chance-là en France.
Voilà, c'est quand même, on a heureusement en France
liberté,
cette
ouais.
liberté d'expression, et c'est pour ça que des, lorsqu'il y a eu des désaccords avec des positions du gouvernement ou des réformes, des choses comme ça, la culture s'est positionnée, et dans des lieux institutionnels comme des centres dramatiques nationaux ou les théâtres nationaux qui ont... qui sont 100% subventionnés par le gouvernement et qui ont critiqué ça. Et c'est normal, c'est la liberté d'expression. C'est comme, voilà, c'est de, comme le droit de grève, c'est des choses qu'on a, on a des droits, on peut communiquer, on a le droit, on a une liberté d'expression qui existe. Voilà, donc moi, je ne me sens pas du tout verrouillé. C'est juste pour... C'est parce que moi, je porte la parole. Je serai directeur du Théâtre du Pavé, j'assumerai totalement. Là, moi, je suis salarié du Théâtre du Pavé, mais mes propos peuvent avoir un impact sur l'ensemble de l'équipe, et je ne suis pas le Théâtre du Pavé. Voilà, je ne suis que salarié du Théâtre du Pavé. Donc voilà, j'ai ma position personnelle et puis après, il y a la position du Théâtre du Pavé. Ça n'empêcherait pas que si le Théâtre du Pavé voulait faire un communiqué pour condamner ce qui a été fait par la ville de Toulouse, elle pourrait très bien le faire sans problème. On a déjà tapé sur la ville de Toulouse dans le passé. Donc,
vous n'allez pas vous gêner
voilà,
pour le faire.
La liberté d'expression est là, mais c'est un communiqué qui est réfléchi, qui est pensé par le directeur et avec l'agrément du conseil d'administration. Là, on est sur une interview. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire ou pas dire. Chacun a sa liberté de penser là-dessus. J'ai une liberté de penser, mais pas une liberté d'expression comme je le voudrais.
Ouais.
Encore une fois, le côté démocratique fait qu'effectivement, on doit raisonner aussi sur une structure culturelle. Je ne suis pas tout seul et ça a un impact énorme. Si d'un seul coup, je dis à la ville de Toulouse, qu'est-ce que vous faites ? Ben non, nous, on dit, on n'est pas d'accord. Mais on le dit avec un communiqué.
D'accord. Alors, on arrive au terme de cette petite interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de... Une raison pour aller voir la pièce ? Même si c'est pas forcément le 29, mais...
La pièce, je voudrais dire, venez voir parce que c'est une pièce qui est un peu hybride.
Ouais.
On est beaucoup souvent sur des auteurs classiques. On a déjà montré du Ionesco, du Beckett, du... Voilà.
Parce que l'absurde, ça peut un peu faire penser qu'à titre personnel, j'ai déjà vu un peu de l'absurde. Et c'est vrai que ça se joue beaucoup sur la mise en scène, pour le coup. C'est que j'avais vu une mise en scène qui était beaucoup plus... pas forcément hybride, c'était... Grenade, fond de jardin, c'était de Beckett. Et c'est vrai que c'était très, très minimaliste, entre guillemets. Et ça peut faire un peu peur. Donc là, est-ce que c'est... Là, j'ai l'impression que c'est une scène beaucoup plus,
alors,
entre guillemets, immersive.
La pièce de Ionesco, elle est très étrange dans l'écriture au départ. Ça part dans tous les sens, il y a beaucoup de redites.
Ouais.
On a l'impression qu'une espèce de... Cette pièce, elle est une espèce de... Il y a plein de colère de Ionesco et plein de rancœur qui se met dedans. Donc la pièce, quand on la lit, on se dit, mais où est-ce qu'il veut en venir ? Et souvent chez Ionesco, la pièce prend tout son sens sur la mise en scène. Contrairement à Beckett, Ionesco n'avait pas de contraintes majeures de mise en scène. Beckett imposait tout. Il mettait tout en didascalie. Il fallait monter Beckett comme lui le voulait. Sur Beckett, il y avait vraiment, c'était très pointu. Il savait où il allait. Et les didascalies sont très précises sur tous ses spectacles. Ce qui fait que ça ne permet pas trop de liberté pour le metteur en scène. On est vraiment sur la direction d'acteur plus que sur la mise en scène. Sur Ionesco, ce n'est pas le cas. On peut tout inventer parce que lui-même n'avait pas de frontières dans l'écriture. Donc, on peut faire tomber les frontières. Là, on fait tomber les murs ici. Mais sur cette pièce-là, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors, il faut savoir que c'est du théâtre de l'absurde, c'est du Ionesco, donc les gens viennent voir du Ionesco quand même. Sur le côté complètement décalé, complètement barré de la pièce, on rajoute deux univers, effectivement, comme je disais, qui sont curieux. Alors, ça passe ou ça casse, on le sait très bien. À la création du spectacle, il y a eu des gens qui ont dit « je n'ai pas compris ». Je dis « c'est pas grave ». Il y a des gens qui étaient en colère. Et puis, il y a des gens qui ont adoré. Donc, c'est une pièce qui ne laisse pas indifférent. On a eu vraiment tout style de réaction, des journalistes qui étaient perturbés par le final. Le final virtuel, il est quand même, ça va très très loin. Ionesco n'a pas du tout envisagé qu'on puisse être dans une réalité virtuelle avec ce roi-là. Mais là, d'un seul coup, il a contourné le parti pris, et finalement on s'est dit, mais finalement le plus intéressant, ce n'est pas finalement le roi qui s'accroche au pouvoir, mais les gens autour, notamment le rôle du médecin qui devient prépondérant, qui est un manipulateur, et finalement c'est un homme de l'ombre. Et là, on part du principe que une des deux reines et le médecin sont des manipulateurs de réalité virtuelle et qu'ils peuvent décider du sort du roi comme ils veulent. Et finalement, ça, ou ça passe ou ça casse, mais quand on voit comment les puissants actuellement sont conseillés par des hommes de l'ombre, qui sont des hommes de la communication, des hommes de l'économie, des finances, finalement, c'est intéressant.
C'est intéressant. Ou,
voilà, là, quand on voit que finalement, une décision politique, elle est décidée par un comité d'experts, par exemple, c'est dit, des experts médicaux, des experts militaires, des experts. Il y a toujours derrière un conseil qui fait que le roi ne fait que dire ce que. Voilà, s'appuie sur des conseillers. Et là, le conseiller du roi, le médecin du roi, est un manipulateur avec une tablette numérique qui décide de la vie et de la mort du roi. Je trouve ça très intéressant parce que dans le monde actuel, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de rois de paille.
En fait, ça pose un peu la question de sur qui repose réellement le pouvoir.
C'est ça. Ouais. Et donc là, on va plus loin que la pièce de Beckett, qui était une critique de la folie du pouvoir. Là, on part vraiment plus loin en disant, on donne une version. Ça plaît pas, mais c'est une autre version de la pièce. En tout cas, cette pièce-là, ce traitement-là n'a jamais été fait. Donc, effectivement, il est allé très loin dans le délire virtuel de la fin. Il y en a plein de gens qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas aimé, parce que ça, on est dans un délire psychédélique.
Ouais.
La pièce, elle bascule dans un univers onirique, mais à un point que voilà, on sait plus où on est.
Une espèce de détachement avec la réalité.
Mais d'un seul coup, voilà, on se dit, oula, mais en fait, ça va plus loin que la folie du pouvoir. Ça va aussi sur les hommes qui sont derrière le pouvoir. C'est finalement ces hommes de pouvoir qui sont devant. Alors il y a des gens comme des dictateurs qui sont très très sûrs d'eux, et puis il y a des hommes politiques qui sont dans la sphère. On a l'exemple en France, qui sont très très très, qui sont amenés au pouvoir par des gens qu'on ne voit pas mais qui sont très puissants. Voilà, et ça c'est intéressant. Mais après voilà, c'est une autre manière de découvrir la pièce. Donc voilà, redécouvrir cette pièce là. Si on aime Ionesco, on peut détester la pièce, parce qu'elle a un parti pris qui est très assumé.
Ouais.
Si on n'aime pas Ionesco, je pense qu'il ne faut pas venir voir la pièce, clairement. Mais après, je pense qu'être curieux de ce traitement-là, et après, ça fait débat. Et les débats, je trouve que c'est toujours très, très bon d'avoir un débat à la fin d'une pièce. Est-ce que j'ai aimé ou pas cette pièce? Est-ce que ce parti pris-là m'a dérangé ou pas? Pourquoi ça m'a dérangé? De quoi ça parle? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Pourquoi je n'ai pas aimé? Ça, c'est voilà, ce grand débat.
Oui, c'est intéressant.
C'est bien. Alors, on est content quand une pièce fait consensus et que tout le monde trouve ça génial. C'est vrai que quand on a fait les spectacles espagnols, on avait une unanimité. Je crois que tout le public, il n'y a pas un public, il n'y a pas... qui a vraiment détesté le traitement de Pagnol, mais parce qu'on était dans une pièce plus conventionnelle, plus consensuelle aussi peut-être, plus touchante, plus humaine. Là, on touche à des sujets qui sont sensibles, à plus forte raison maintenant. Mais je dis aux gens, soyez curieux, venez tenter l'expérience et on en reparle après. On va voir qu'est-ce que ça vous a fait, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'avez pas aimé, et on en reparle. C'est être curieux pour venir voir la pièce, voilà. Après, il y aura d'autres pièces, voilà, plus... on aura du Jaurès, des textes de Jaurès sur le mois de mai, on aura d'autres pièces symboliques, politiques, mais celle-ci, elle fait débat.
Mais c'est vrai que ça, même le fait de ne pas aimer, ça permet, c'est intéressant, parce que ça permet de comprendre ce qui ne nous plaît pas aussi. Mmh. Quoi.
Moi, je trouve que c'est toujours là, encore une fois, c'est... Moi, je suis là pour dire aux gens, venez voir un spectacle. Là, j'aurais tendance à dire, venez vous confronter à ce spectacle-là.
Ouais.
Venez confronter, parce que c'est vrai que c'est... Et à plus forte raison, dans le contexte actuel, où d'un seul coup, voilà, on est tellement absorbé par ce qui se passe et la crainte de ce monde qui peut exploser à tout moment, que la pièce devient hyper anxiogène aussi, un peu. On ne sait plus où on est. Et ça crie, ça hurle, c'est une... Voilà, tout part, voilà, le monde s'écroule. Il y a une saturation du son, il y a une saturation, le décor, voilà, et on part vraiment dans des sphères. Il y a un moment où on se dit, voilà, est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie de rester chez soi? C'est-à-dire, si c'est pour regarder les infos, il vaut mieux venir au théâtre pour se poser les mêmes questions.
Après, je pense que ça peut mettre mal à l'aise, parce que si effectivement ça nous confronte physiquement à un monde qui s'écroule, ça fait peur.
Voilà.
C'est se dire qu'on a notre monde qui s'écroule, que demain on pourrait mourir sous une bombe atomique, c'est dur de se confronter à ça.
Ionesco l'a déjà écrit, d'autres auteurs aussi l'ont fait. Hein. Tchekhov a beaucoup critiqué ses contemporains sur le monde qui s'écroule. Ah, Tchekhov, mon Dieu, un auteur russe, je parle d'un auteur russe. Tchekhov, avant son heure, avait beaucoup déjà parlé des dégâts, des problèmes écologiques, de la déforestation, tout ça. Il en avait appris dans ce texte. Je prends l'exemple de l'oncle Vernia qu'on a eu en début de saison, où d'un seul coup, il y a toute une partie sur l'écologie qui est d'une modernité extraordinaire et qui est encore à l'ordre du jour, alors qu'il l'a écrit au début du XXe siècle. Je dis, mais c'est fou que ces auteurs-là, il pointe du doigt des problématiques qui sont de plus en plus présentes. Donc je me dis, ben ouais, on a encore du boulot, nous, en tant qu'acteurs culturels, pour défendre aussi ces textes-là, y compris pour des auteurs russes, pour défendre ces critiques du pouvoir, ces problèmes contemporains qui sont toujours et encore d'actualité.
En parlant d'auteurs russes, bon, j'imagine, je me doute déjà de la réponse, mais ça ne vous poserait pas de problème. Enfin, vous pensez que ça poserait problème de mettre en scène, par exemple, du Tchekhov, un truc comme ça?
Non, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est l'exemple de Vania qu'on a eu en début de saison.
Ça pourrait être un engagement aussi.
C'est le bail collectif qui a monté ce spectacle-là. Donc, c'est redécouvrir Tchekhov sur un angle très contemporain, très cinématographique. Et c'est un bijou. Même moi qui ne suis pas un grand inconditionnel de Tchekhov, j'ai redécouvert le texte de Tchekhov à travers leur mise en scène. Et ça parle. Et c'est vrai que ce discours sur, voilà, sur la déforestation, sur le problème de la désertification des campagnes, que tout le monde repart vers les villes et tout, c'est des choses qu'on a encore. Il y a des zones où il n'y a plus rien, voilà, où les gens fuient, et la déforestation, le propos, c'est vraiment un discours écologique majeur de Tchekhov. Et là, dans la pièce, quand on l'a joué, d'un seul coup, j'étais là, j'ai dit, mais c'est désarmant de justesse, et c'est terrible, toujours là,
ouais.
Quoi. Et ouais. C'est plus que jamais là, et c'est désarmant, et c'est là qu'on... Voilà, c'est pas la question de la nationalité de l'auteur, c'est que l'auteur a des choses à dire, et qu'il faut les défendre, ça, quelle que soit sa nationalité. Et si Tchekhov avait été à l'époque financé par les pouvoirs russes, je m'en moque, ce qu'il a écrit, il l'a écrit en toute liberté.
Ouais.
À partir de là, c'est à nous artistes, à nous lieux de spectacle vivant, de faire entendre ces auteurs-là à partir du moment où ils ne sont pas dans la propagande d'une dictature quelle qu'elle soit.
C'est vrai, pour revenir un peu sur la mise en scène virtuelle de la pièce du roi Summer, ça me paraît, à titre personnel, ça paraît assez pertinent quand on voit la place qu'a le virtuel aujourd'hui. Donc ça reste
très virtuel. Les gens maintenant s'inventent des vies, s'inventent des pseudos. Ils sont, voilà, même que ça soit sur des jeux vidéo ou même dans la vie de tous les jours. Voilà, on est sur quelque chose, on se réinvente une vie qu'on a. Voilà, les gens ne vivent plus. Alors, je sais pas tous, heureusement.
Un peu une fuite.
Les gens ont besoin d'une soupape, d'invention, ouais. Une autre vie à côté. Voilà, donc là, le virtuel, on l'a poussé à l'extrême puisqu'effectivement, on part du principe que les hommes de pouvoir ne sont pas maîtres de leur destin. En tout cas, certains. Mais c'est... oui, virtuel a pris vraiment une ampleur et c'est pas fini. Quand on voit maintenant les avatars qui ont commencé à créer sur s'inventer une vie, s'échapper du réel pour aller dans des jeux ou dans des réseaux, j'ai dit au bout d'un moment, mais où est-ce qu'on est, quoi ? Ne pas oublier de vivre au milieu de tout ça. Alors, on en est encore loin. Heureusement, on n'est pas complètement lobotomisé. Je pense que les gens, ça fait encore la part des choses et ils ont besoin d'évasion, et à plus forte raison dans le contexte actuel anxiogène. Mais le virtuel a pris... il a créé ce spectacle-là en 2018 et le virtuel continue à prendre de l'ampleur. Donc voilà, donc c'est d'actualité. C'est pas de l'opportunisme de parti pris, c'est juste que voilà, c'est que comment raisonner avec son temps sur le problème du pouvoir et le problème de l'évasion et de la virtualité.
Ouais, c'est une mise en scène actualise. Hein,
voilà, on essaie, ouais. En tout cas, voilà, c'est un essai. Ça passe ou ça casse, comme je dis, mais en tout cas, ça.
Au moins, c'est un parti pris.
Mais c'est un parti pris, et encore une fois, monter cette pièce-là de cette manière-là, à ma connaissance, personne n'était allé aussi loin, au risque pour certains de dire qu'on a dénaturé l'œuvre de départ.
J'aurais plus tendance à penser qu'à partir du moment où une œuvre est publiée, elle appartient entre guillemets au public, et surtout que si un metteur en scène se l'approprie, de toute façon il y aura toujours deux regards, il y a le regard de l'auteur et le regard du metteur en scène.
Et puis ça permet le regard critique, encore une fois, la meilleure chose, nous on travaille pour du public, encore une fois, le métier, soit en tant que programmateur, en tant que responsable de salle ou en tant que comédien, notre action, elle est vers le tout public, c'est de faire entendre, de faire réfléchir. L'esprit critique, il est important. Si les gens critiquent une pièce, c'est qu'en tout cas, ça les a interrogés. Voilà.
Ouais,
il faut s'interroger sur le monde, il faut interroger. Après, voilà, ça reste, on assume par une mise en scène. Il y a des choses, moi, qui dans le spectacle, moi, me dépassent, honnêtement, personnellement. Je ne savais plus où j'étais dans la pièce.
Ouais.
Mais moi, j'étais en colère. Je dis, mais pourquoi je suis en colère? C'est que ça a marché. Voilà.
C'est quelque chose qui vous a parlé, mais vous n'avez pas forcément conscientisé.
Voilà, je dis vraiment, je dis souvent aux gens, soyez curieux sur des, alors, sur des textes comme celui-là, qui est des textes emblématiques du répertoire français, c'est bien de venir les redécouvrir, et puis d'être curieux aussi sur des écritures modernes. Là, cette semaine, voilà, c'est un auteur contemporain qui a écrit sur la dictature chilienne, qui fait une évocation. C'est une écriture qui est très particulière, qui est très contemporaine, mais voilà, ce sont des auteurs contemporains vivants qui ont aussi des choses à dire. Donc il faut aussi, nous, notre mission, c'est de donner la parole à ça, de redécouvrir les textes, y compris Molière dans son côté très critique. Quand on monte un Molière, on va aller chercher la justesse du propos et aller chercher, mais de quoi il parle Molière ? C'est pas simplement du divertissement des masses, c'est pas du divertissement populaire, ce n'est pas que ça. Ouais. Derrière, il y a une critique du pouvoir, une critique des religieux, une critique de la bourgeoisie, une critique des faux-semblants, des mesquins, des petites gens. Il y a beaucoup de critiques,
c'est ironique,
il n'épargne personne. Même les gens les plus modestes sont des fois affreux dans leur manigance, dans leur... Donc voilà, on a tout ça qui bouillonne dans ces pièces-là. Et nous, notre boulot, c'est de dire, mais venez redécouvrir Molière. Vous pensez connaître Molière, vous allez redécouvrir des choses. On avait un spectacle aussi, par exemple, sur La Fontaine, sur les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, elles sont impitoyables.
Ouais.
La Fontaine, qui était financée par le pouvoir, c'est un de ceux qui s'est le plus moqué du pouvoir. Et ces fables... C'est une satire, mais hyper acide, de la religion et du pouvoir. C'est génial. Et quand on décortique les fables, on se rend compte que c'est un polémiste, il pourrait être à Charlie Hebdo, hein, La Fontaine. C'est dingue. C'est vraiment des polémistes de l'époque. Et donc, c'est intéressant aussi pour nous de rappeler que ce n'est pas simplement des fables gentillettes. Voilà, là aussi, le rôle de l'artiste et des salles de spectacle, c'est de mettre en avant aussi le pouvoir de la culture et des arts, c'est de repenser le monde et de le mettre en avant ces axes-là. Là, voilà, le Roi Sommeur en fait partie.
Mais c'est ça qui est beau dans l'art, c'est le fait que même si t'es... Enfin, c'est vrai, c'est une vraie force, le fait que même si t'es financé par finalement le pouvoir en place, tu peux arriver à t'en moquer.
Oui.
Parce que tu peux prendre des chemins détournés.
C'est l'avantage de démocratie, en fait. C'est cette liberté qu'on a d'expression, et le jour où on sera censuré au niveau des arts, ça deviendra très dangereux.
Ouais.
J'ai attention de ne pas censurer les artistes.
Ouais.
Ça, c'est déjà arrivé par le passé dans certains pays. Attention à ça. C'est la liberté d'expression, c'est ce qu'on a de plus précieux. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de le dire. Voilà. Mais c'est... Les pouvoirs publics n'ont pas à se mêler de ça. C'est ce qu'on appelle aussi le droit de manifester. Une manifestation, on a le droit de manifester parce qu'on est dans une démocratie. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec une décision parce qu'on est dans une démocratie. Et quand on voit dans certains pays que tout est verrouillé, on se dit, protégeons ce qu'on a et soyons vigilants sur ce qui se passe. Actuellement aussi, même en France, soyons vigilants sur ce qui se passe. On se rend compte qu'au bout d'un moment, on a le droit de manifester, mais ce n'est pas entendu. Ça rentre, c'est vrai que ça pose problématique. Il y a une vraie problématique là-dessus. C'est qu'on vous... Oh oui, vous pouvez râler, mais ça ne changera rien. Ça, c'est dangereux. Il y a un moment où il ne faut pas oublier qu'une démocratie, ça vient du peuple. C'est le peuple qui décide. Et dans une période électorale comme celle-là, ne pas oublier les fondamentaux en se disant, mais est-ce qu'on est entendu quand on vote ? Est-ce qu'on est entendu quand on manifeste ? Est-ce qu'on est entendu ? Est-ce que notre parole a une valeur encore ? N'empêche qu'on peut encore, nous, le faire sans être arrêté. Donc, c'est rassurant. On a encore, j'espère, de beaux jours devant nous. J'espère.
Ouais, finalement, l'art, c'est une des... Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est une des dernières, entre guillemets, instances qui nous permet de parler librement et d'avoir un impact, en fait ?
Non, il y en a plein d'autres. Parce qu'encore, dans les médias, il y a encore une liberté d'expression. Des fois, on se dit, sur France Inter, il s'est passé des choses qui ne sont pas très jolies, ou des chroniqueurs qui sont un peu mis à l'écart parce qu'ils ont critiqué le pouvoir. Mais les médias sont libres, les syndicats sont libres, la culture est libre. Il y a encore plein d'espaces de liberté d'expression. Heureusement. Sinon, ça serait inquiétant. Non, on n'est pas les seuls. Ouais. Franchement, la culture, c'est une goutte d'eau. Mais c'est vrai qu'il y a les vraies polémiques, que ce soit dans des films, dans des pièces, dans des œuvres, dans des écritures. On se rend compte que la culture a toujours pointé du doigt les dysfonctionnements du monde. Et pourquoi souvent les partis extrémistes lorsque les extrêmes arrivent au pouvoir, souvent c'est la culture qui trinque. C'est parce que la culture, elle se permet des choses que d'autres n'osent pas. Les artistes, au nom de la culture, se permettent de critiquer, de pointer du doigt des choses de manière artistique ou politique, ou les deux d'ailleurs. Mais pourquoi c'est la culture qui est on leur coupe les vivres dans là où les extrêmes arrivent au pouvoir, quand il y a des municipalités qui sont passées en extrême droite en France, ben, la culture n'existait plus, elle était verrouillée. Et on l'a vu. Donc on s'est dit, s'ils arrivaient au pouvoir au niveau national, qu'est-ce qui se passerait au niveau culturel? Tout serait verrouillé. Ça fait peur, ça. Ça fait vraiment peur. On a vu d'autres pays comme ça, où d'un seul coup, il y a une censure de l'art. Je me dis, l'art fait peur.
Oui, l'art fait peur.
L'art fait peur.
L'art fait peur parce qu'il apprend à réfléchir.
Les médias font peur, on les muselle. Voilà, donc il faut faire attention à ça parce que l'extrémisme, la dictature et les extrémismes de tous bords peuvent amener à des censures, et ça, voilà, on se bat contre ça. J'espère que pour l'instant, on a cette chance de pouvoir encore pouvoir dire et faire ce qu'on veut.
Il y a un peu cet enjeu-là derrière la soirée aussi de soutien.
Oui, ouais. Voilà, mais encore une fois, personne ne nous a demandé de faire quoi que ce soit. On le fait nous et on défend ça. Et on va défendre à travers cette soirée-là. On défend juste une manière très symbolique de dire, n'oublions pas, oui, on fait du spectacle vivant, oui, on fait du divertissement, mais n'oublions pas que quelques heures d'ici, il y en a qui vivent un vrai drame. Mmh. Et voilà, on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Mais encore une fois, ça reste une goutte d'eau dans l'océan. Mais voilà, c'est juste dire, on n'oublie pas. C'est pas, on ferme pas les yeux en disant, non, on ne veut pas voir. Ouais. On veut pas voir. Si on voit, on le sait. On continue notre travail, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas insensible. Et c'est pas l'opportunisme non plus. On pourrait nous dire, mais là, il y a une spectatrice qui nous a dit, mais pourquoi vous le faites pour eux alors qu'il y a d'autres problèmes dans le monde qui ne vous touchent pas? Je dis, ben, si, mais on l'a fait, mais vous n'êtes pas au courant, mais on l'a fait pour la Syrie, on l'a fait pour... Voilà, on le fait aussi en local pour les hôpitaux de Toulouse. On ne le fait pas sur tous les combats. Il y a plein de pays qui sont dans des situations catastrophiques dont on ne parle plus actuellement dans les infos. On ne peut pas être partout. Là, on l'est, mais ce n'est pas une question d'opportunisme. Il y a un moment où on a eu envie, c'est un truc qui est spontané, qui s'est fait en une soirée, et on a eu envie de faire ça. Après, voilà... ça peut être discutable, on peut dire c'est pas de l'opportunisme, l'idée c'est pas de remplir la salle avec sous prétexte de l'Ukraine, on essaie d'éviter aussi cet écueil là les gens qui veulent pas venir, il y a des gens qui disent on peut pas venir mais par contre on veut faire un don à la Croix-Rouge, ben ils ont tout compris. Ouais. Si vous voulez pas venir au spectacle, je n'oblige personne à venir voir le spectacle, mais allez-y, allez sur le site de la mairie de Toulouse, il y a tout un lien pour aller sur la Croix-Rouge internationale pour faire des dons. Si vous voulez pas venir au spectacle, j'oblige personne, je dis venez vous confronter à cette pièce, oui, par contre voilà, si vous pouvez aller au spectacle, voilà, vous le faites pour une bonne cause, mais si vous le faites pas, si vous le faites pour vous, pensez quand même, si vous venez pas, pensez à donner à la Croix-Rouge ou à d'autres associations ou à vous investir. Même sur une goutte d'eau, on ne demande pas d'accueillir tous des réfugiés, mais voilà, qu'est-ce que chacun peut se faire, comment on peut se positionner chacun? Bon, ben là, sans venir voir un spectacle, mais si on ne vient pas voir le spectacle, ce n'est pas grave. Par contre, nous, on aura aussi communiqué, qu'est-ce que vous faites, vous, chacun, à votre niveau, individuellement?
Oui, voilà. Même, de toute façon, même le fait d'aller voir une pièce comme Le Roi Semeur qui dénonce certaines choses, c'est quelque part un parti pris. Même si c'est pas forcément visuel, si ça ne va pas en faire un
tout ça aurait un, été, après, caisse, ouais. on aurait fait une programmation, ça aurait été une pièce, une comédie ballet de Molière.
Je pense que ça aurait été pertinent.
On l'aurait quand même fait. C'est voilà, on vient se divertir sur un spectacle sur une pièce de Molière. Alors, il y a des pièces de Molière qui sont beaucoup moins revendicatrices, mais on l'aurait fait de la même manière. Je sais pas, voilà, il y a deux choses différentes. Voilà, il y a le spectacle. Là, il se trouve que ce spectacle-là, en plus, a un écho supplémentaire. Mais on aurait eu n'importe quel spectacle, on aurait fait quand même une soirée de soutien. On aurait trouvé, comme pour les réfugiés syriens, on aurait organisé une soirée s'il n'y avait pas eu de programmation. On aurait organisé une soirée, on aurait contacté tous les artistes avec qui on travaille et tout le monde aurait joué le jeu. Donc, on le fait dès qu'on peut. Pas pour tout le monde, pas pour tous les événements tragiques du monde, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on ne ferait plus que ça. Mais on trouve de temps en temps qu'il est important de rappeler aussi la mission sociale du théâtre aussi. Voilà, c'est pas que politique.
Ouais.
C'est humain.
Un peu une mentalité aussi de Théâtre du Pavé de montrer en quoi résonnent aujourd'hui les pièces qui ont été écrites il y a des décennies.
Voilà, ça on le fait au quotidien, pour toute la saison, tout le temps. Chaque fois qu'il y a un spectacle, alors des fois c'est des spectacles qui n'ont pas de revendication majeure, hein. Il y a des choses qui sont purement du... Mais en recherchant bien, on trouve toujours dans l'écriture théâtrale, il y a toujours quelque chose derrière qui sous-jacent, une critique de la société, un point sensible, un sujet difficile à aborder. On a eu des sujets très compliqués. On peut parler des migrants, on peut parler de l'inceste, on peut parler. Il y a plein de pièces qui traitent de sujets très durs. Donc on ne vient pas forcément au théâtre que pour se divertir. Des fois, on aborde aussi des sujets qui sont importants. C'est la vocation du théâtre d'être ces passeurs-là. Après, nous, on le fait aussi avec la matière proposée par les artistes. On crée nous-mêmes, on a une troupe résidente ici, mais c'est vrai que c'est quand l'actualité nous rattrape, c'est toujours un peu étrange. Voilà, là c'est vrai que n'importe quoi, là ce truc, les événements se passent. Voilà, on a un spectacle sur une dictature chilienne et sur un exil et sur et là ensuite on enchaîne sur un dictateur qui s'accroche au pouvoir. On se dit ouh là là, il y a quoi ensuite? On a quoi comme pièce ensuite? On se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que voilà? À un moment il y a Olga, ça va être un personnage qui vient des pays de l'Est. On se dit ouh, ça va résonner bizarrement aussi, mais on est sur un truc totalement onirique, mais sur un peuple étrange qui est un peu oppressé. Je dis, oh tiens, ça va avoir des échos aussi. Donc effectivement, si on regarde un peu toutes les pièces, Jean Jaurès, voilà, les textes des discours de Jean Jaurès quand il va en Amérique latine, voilà, c'est un discours qui est très militant, qui est très social, qui est très humain. On a besoin de l'humain, de ne pas se recentrer sur soi-même. Donc finalement, toutes les pièces qui arrivent comme ça, on se dit, il y a quand même beaucoup de... voilà, L'oreille suspendue qui va avoir lieu, c'est une parodie d'émission de radio qui va aussi dans les travers du discours des médias. C'est finalement, on peut voilà, sur chacune des pièces, je pourrais reprendre une par une. J'ai dit, mais en fait, de quoi ça parle ces pièces? Oui. Voilà, Kinka, ça parle de la solitude, et on parle de la dépression, des suicides, des machins. Voilà, on pourrait se dire, Kinka, qui est une comédie, voilà, sur cette espèce de schizophrénie d'un personnage, c'est un dialogue pour deux hommes, pour un homme, dialogue pour un homme seul. C'est bizarre, mais voilà, on se dit, mais finalement, chacune des pièces a des sujets comme ça qui sont abordés. Même pas mal qu'on va avoir fin début juin va traiter de la bipolarité, qui est un vrai, on en parle de plus en plus, de ce problème de bipolarité, et en même temps du mal-être des collégiens. Voilà, donc c'est, et pourtant on rit, et toutes ces pièces là elles ont ce point commun d'avoir d'un seul coup un écho avec la réalité. Ils sont les auteurs, les artistes ne sont pas déconnectés, ne sont pas que des rêveurs. Et c'est bien aussi d'avoir ce retour là donc quand on se plonge dans les programmations, je dis aux gens, voilà, plongez-vous dans les programmes, sortez de chez vous, quittez l'ordinateur, quittez les réseaux sociaux, allez au théâtre, chez nous ou ailleurs, sortez, allez voir des spectacles vivants. On a en plus pas mal morflé l'année dernière, donc ma conclusion, ouais. Ça serait de dire, surtout, soyez curieux, sortez et allez voir des spectacles, des concerts, de la danse, des expos, sortez de chez vous. Vraiment, c'est le seul truc, la conclusion que je peux faire là-dessus, c'est les artistes ont besoin du public. Ne les oubliez pas, parce qu'ils ont pas mal morflé les artistes l'année dernière. On pouvait pas s'exprimer à cause de cette pandémie, on n'a pas pu s'exprimer, mais
c'est dangereux.
Les gens ont du mal à revenir au théâtre. Je dis aux gens, sortez, ressortez, venez voir. Les artistes ont plein de choses à vous partager.
Surtout que là, on peut enfin enlever les masques.
On peut, voilà, même avec les masques, il fallait venir au théâtre. ne pas perdre ce lien-là. Voilà, les artistes ont beaucoup de choses à dire et il faut venir les écouter.
Et ce sont des éponges, c'est qui absorbent. Avant de terminer, juste petite. Alors, rappelez-nous un peu quand est-ce que les dates du Roi Semeur.
Alors, le Roi Semeur, ça commence le 29.
C'est la première.
Voilà,
en plus.
29 mars, donc la semaine prochaine.
Donc la première pour le. Ouais, ok, d'accord. Oui.
Voilà, et se joue jusqu'au 3 avril.
Ok.
Voilà, ça c'est pour l'UNESCO.
Et alors après, vous avez parlé aussi de L'Oreille Suspendue.
L'Oreille Suspendue, ça sera du 7 au 9 avril, c'est 3 soirées. Donc c'est une parodie d'émission de radio, donc c'est fait par une jeune compagnie, des jeunes comédiens issus du Conservatoire de Toulouse, qui propose un univers complètement absurde, décalé, une émission de radio avec témoignages. Voilà, on est sur une satire des médias. Je trouve que c'est jeune, c'est impertinent, c'est complètement fou, ça part dans tous les sens, ça se passe aussi bien sur scène qu'en salle. Voilà, donc et ils ont proposé ça, ils avaient fait une sur une scène ouverte en plein air, et on a eu envie de leur donner la possibilité de le faire dans la grande salle. Donc ils font 3 soirées de ce spectacle-là, L'Oreille Suspendue, et c'est un, voilà, là aussi c'est un travail fait par des jeunes, avec le regard des jeunes sur les médias, sur la société, sur les témoignages qu'on peut voir à la télé. Voilà, ces témoignages plus ou moins dictés. Voilà, c'est toujours intéressant de voir les travers des médias à travers le spectacle. Donc ça sera du 7 au 9 avril.
Et Quinca?
Quinca, donc là c'est 2 comédiens, donc ça se passera dans la petite salle du pavé. Donc c'est un texte de Serge Valetti, qui, voilà, c'est Dialogue pour un homme seul. Donc, c'est joué quand même par deux comédiens. Donc, il y a un côté, là aussi, on est un peu, on va tirer un peu vers le théâtre de l'absurde. C'est à la fois très touchant et très absurde. C'est comment deux personnages discutent, alors que tu sais, dès le départ, que c'est une seule et même identité. Il y a une espèce de schizophrénie dans ce personnage-là. Mais la schizophrénie est interprétée par deux comédiens.
C'est un dialogue intérieur.
Hein. Voilà, c'est un dialogue intérieur entre deux personnes qui, voilà, que tout oppose. Mais c'est, voilà, un dialogue d'une seule personne, personnifié par deux comédiens. Et donc ça sera ouais, du 20 au 23 avril.
Donc il faut qu'on reste à l'écoute.
Voilà, après il faut être curieux, là, il y a le site internet du Pavé, le www.théâtredupavé.org.
Il y a la page Facebook.
Voilà,
aussi.
Le Facebook du Pavé, sur Twitter aussi, Instagram, pardon, pas Twitter. Sur Instagram, sur Facebook, on essaye aussi de donner un maximum d'informations. Donc encore une fois, il faut être curieux. On a le droit d'allumer l'ordinateur pour aller voir les programmations et après on éteint l'ordinateur pour aller au théâtre.
c'est la conclusion. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté ces quelques questions.
Première histoire, qui traite du miroir et de ses morceaux. Voyons, nous commençons. Quand nous serons au bout de notre compte, nous en saurons bien plus que maintenant, car nous avons parmi nos personnages un vilain merle, le plus méchant de tous, le diable. Un jour, il était de bien bonne humeur. Il venait de confectionner un miroir qui avait une merveilleuse propriété. Le beau, le bien s'y réfléchissait, disparaissait presque entièrement. Tout ce qui était mauvais et déplaisant ressortait au contraire et prenait des proportions excessives. Les plus admirables paysages par ce moyen ressemblaient à des épinards cuits. Les hommes les meilleurs et les plus honnêtes paraissaient des monstres. Les plus beaux semblaient tout contrefaits. On les voyait la tête en bas. Les visages étaient contournés, grimaçants, méconnaissables. La plus petite tache de rousseur devenait énorme et couvrait le nez et les joues. Que c'est donc amusant, disait le diable en contemplant son ouvrage. Lorsqu'une pensée sage ou pieuse traversait l'esprit d'un homme, le miroir se plissait et tremblait. Le diable enchanté riait de plus en plus de sa gentille invention. Les diablotins qui venaient chez lui à l'école, car il était professeur de diablerie, allèrent compter partout qu'un progrès énorme, incalculable, s'accomplissait enfin. C'était seulement à partir de ce jour qu'on pouvait voir au juste ce qu'il en était du monde et des humains. Ils coururent par tout l'univers avec le fameux miroir, et bientôt il n'y eut plus un pays, plus un homme, qui ne s'y fût réfléchi avec des formes de caricature. Ensuite, plus hardis, ils se mirent à voler vers le ciel pour se moquer des anges et du bon Dieu. Plus ils montaient et s'approchaient des demeures célestes, plus le miroir se contournait et frémissait à cause des objets divins qui s'y reflétaient. À peine s'ils pouvaient le tenir tant ils se démenaient. Ils continuèrent de voler toujours plus haut, toujours plus près des anges et de Dieu. Tout à coup, leur miroir trembla tellement qu'il échappa aux mains des diablotins impudents. Il retomba sur la terre où il se brisa en des milliards de milliards de morceaux. Mais il causa alors bien plus de malheur qu'auparavant. Ces débris n'étaient pas plus gros que des grains de sable. Le vent les éparpilla à travers le vaste monde. Bien des gens reçurent de cette funeste poussière dans les yeux. Une fois là, elle y restait, et les gens voyaient tout en mal, tout en laid et tout à l'envers. Ils n'apercevaient plus que la tare de chaque créature, que les défectuosités de toutes choses, car chacun des imperceptibles fragments avait la même propriété que le miroir entier. Bien sûr, il y eut de ces morceaux qui descendirent jusqu'au cœur de certaines personnes. Alors c'était épouvantable, le cœur de ces personnes devenait comme un morceau de glace, aussi froid et aussi insensible. Outre ces innombrables petits débris, il resta du miroir quelques fragments plus considérables, quelques-uns grands comme des carreaux de vitre. Il ne faisait pas bon de considérer ses amis à travers ceux-ci. D'autres servirent de verres de lunettes. Les méchants les mettaient sur leurs yeux pour paraître voir clair et discerner avec une exacte justice. Quand ils avaient ces lunettes sur le nez, ils riaient et ricanaient comme le diable regardant son miroir. Les laideurs qu'ils découvraient partout les flattaient et chatouillaient agréablement leurs esprits pervers. C'était un gigantesque miroir, le vent continua d'en semer les débris à travers les airs. Maintenant, écoutez bien. deuxième histoire, un petit garçon et une petite fille. Dans la grande ville, il y a tant de maisons, tant de familles, tant de monde que tous ne peuvent avoir un jardin. La plupart doivent se contenter de quelques pots de fleurs. Deux enfants de pauvres gens avaient trouvé moyen d'avoir mieux qu'un pot de fleurs et presque un jardin. Leurs parents demeuraient dans une étroite ruelle. Ils habitaient deux mansardes de leur face l'une de l'autre. Les toits des deux maisons se touchaient presque. On pouvait sans danger passer d'une gouttière à l'autre et se rendre visite. Les enfants avaient devant leur fenêtre, chacun, une grande caisse en bois remplie de terre, où ils poussaient des herbes potagères pour le ménage, et aussi dans chaque caisse un rosier. Les parents eurent l'idée de poser les caisses au travers de la petite ruelle, d'une fenêtre à l'autre. Ce fut un embellissement considérable. Les pois suspendant leurs branches, les rosiers joignant leurs fleurs formaient comme un arc de triomphe magnifique. Les enfants venaient s'asseoir sur de petits bancs entre les rosiers. Quel plaisir quand on leur permettait d'aller s'amuser ensemble dans ce parterre aérien. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient autant. L'hiver, leur plaisir était interrompu. Les fenêtres restaient souvent gelées et les carreaux couverts d'une couche de glace. Les enfants faisaient alors chauffer un shilling de cuivre sur le poêle. Ils l'appliquaient sur le carreau et cela formait un petit Judas tout rond derrière lequel étincelait de chaque côté un petit œil doux et riant. C'était le petit garçon et la petite fille. Il se nommait Kay, elle se nommait Gerda. En été, ils pouvaient donc aller chez l'un chez l'autre d'un seul saut. En hiver, il leur fallait descendre de nombreux escaliers et en remonter autant. On était en hiver. Au dehors, la neige voltigeait par milliers de flocons. « Ce sont les abeilles blanches !» dit la grand-mère. « Ont-elles aussi une reine ?» demanda le petit garçon, car il savait que les abeilles en ont une. « Certainement !» dit la grand-mère. La voilà qui vole là-bas où elles sont en masse. Elle est la plus grande de toutes. Jamais elle ne reste en place tant elle est voltigeante. Est-elle sur terre, tout à coup elle repart se cacher dans les nuages noirs. Dans les nuits d'hiver, c'est elle qui traverse les rues des villes et regarde à travers les fenêtres qui gèlent alors et se couvrent de fleurs bizarres. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu, dirent à la fois les deux enfants. Et maintenant ils savaient que c'était bien vrai ce que disait la grand-mère. La reine des neiges peut-elle entrer ici? Demanda la petite fille. « Qu'elle vienne donc, dit Kay, je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra. » Mais la grand-mère se mit à lui lisser les cheveux et raconta d'autres histoires. Le soir de ce jour, le petit Kay était chez lui, à moitié déshabillé, prêt à se coucher. Il mit une chaise contre la fenêtre et grimpa dessus pour regarder le petit trou rond fait au moyen d'un shilling chauffé. Quelques flocons de neige tombaient lentement. Le plus grand vint se fixer sur le bord d'une des caisses de fleurs. Il grandit, grandit, et finit par former une jeune fille plus grande que Gerda, habillée de gaze blanche et de tulle bordée de flocons étoilés. Elle était belle et gracieuse, mais toute de glace. Elle vivait cependant. Ses yeux étincelaient comme des étoiles dans un ciel d'hiver et étaient sans cesse en mouvement. La figure se tourna vers la fenêtre et fit un signe de la main. Le petit garçon eut peur et sauta à bas de la chaise. Un bruit se fit dehors, comme si un grand oiseau passait devant la fenêtre et de son aile frôlait la vitre. Le lendemain, il y eut une belle gelée. Puis vint le printemps. Le soleil apparut, la verdure poussa. Les hirondelles battirent leur nid, les fenêtres s'ouvrirent, et les deux enfants se retrouvèrent assis à côté l'un de l'autre dans leur petit jardin, là-haut, sur le toit. Comme les roses fleurirent superbement cet été, et que le jardin se para à plaisir. La petite fille avait appris par cœur un cantique où il était question de roses. Quand elle le disait, elle pensait à celle de son jardin. Elle le chanta devant le petit garçon, elle le lui apprit. Et tous deux unirent bientôt leurs voix pour chanter. Les roses fanent et se fanent, mais bientôt nous reverrons la Noël et l'enfant Jésus. Les deux petits embrassaient les fleurs comme pour leur dire adieu. Ils regardaient la clarté du soleil et souhaitaient presque qu'il hâtât sa course pour revoir plus vite l'enfant Jésus. Pourtant, quelle belle journée se succédait pour eux pendant qu'ils jouaient à l'ombre des rosiers couverts de fleurs. Un jour, Kay et Gerda se trouvaient là, occupés à regarder dans un livre d'images, des animaux, des oiseaux, des papillons. L'horloge sonna justement 5 heures à la grande église. Voilà que Kay s'écrie « Aïe, il m'a entré quelque chose dans l'œil. Aïe, aïe, quelque chose m'a piqué au cœur !» La petite fille lui prit le visage entre les mains et lui regarda dans les yeux qui clignotaient. Non, elle n'y vit absolument rien. « Je crois que c'est parti, » dit-il. Mais ce n'était pas parti. C'était un des morceaux de ce terrible miroir dont nous avons parlé. De ce miroir, vous vous en souvenez bien, qui fait paraître petit et laid ce qui est grand et beau, qui met en relief le côté vilain et méchant des êtres et des choses, et en fait ressortir les défauts au préjudice des qualités. Le malheureux quai a reçu dans les yeux un de ces innombrables débris. L'atome funeste a pénétré jusqu'au cœur, qui va se racornir et devenir comme un morceau de glace. Kay ne sentait plus aucun mal, mais ce produit de l'enfer était en lui. Pourquoi pleures-tu ? Dit-il à la fillette que son cri de douleur avait ému. Essuie ses larmes, elles te rendent affreuse. Je n'ai plus aucun mal. Fi donc ! S'écria-t-il en jetant les yeux autour de lui. Cette rose est toute piquée de vert, cette autre est mal faite. Toutes sont communes et sans grâce, comme la lourde boîte où elle pousse. Il donna un coup de pied dédaigneux contre la caisse et arracha les deux fleurs qui lui avaient déplu. « Kay, que fais-tu ? » s'écria la petite fille, comme s'il commettait un sacrilège. La voyant ainsi effrayée, Kay arracha encore une rose, puis s'élança dans sa mansarde sans dire adieu à sa gentille et chère compagne. « Que voulez-vous ? C'était l'effet du grain de verre magique. » Le lendemain, ils se mirent à regarder de nouveau dans le livre d'images. Kay n'y vit que d'affreux magots, des êtres ridicules et mal bâtis, des monstres grotesques. Quand la grand-mère racontait de nouveau les histoires, il venait tout gâter avec un mets, ou bien il se plaçait derrière la bonne vieille, mettait ses lunettes et faisait des grimaces. Il ne craignit pas de contrefaire la grand-mère, d'imiter son parler et de faire rire tout le monde aux dépens de l'aïeul vénérable. Ce goût de singer les personnes qu'il voyait, de reproduire comiquement leur ridicule, s'était tout à coup développé en lui. On riait beaucoup à le voir, on disait « Ce petit garçon est malin, il a de l'esprit !» Il alla jusqu'à taquiner la petite Gerda qui lui était dévouée de toute son âme. Tout cela ne provenait que de ce fatal grain de verre qui lui était rentré au cœur. Dès lors, il ne joua plus au même jeu qu'auparavant. Il joua à des jeux raisonnables, à des jeux de calcul. Un jour qu'il neigeait, l'hiver était revenu, il prit une loupe qu'on lui avait donnée et tendant le bout de sa jaquette bleue au dehors, il y laissa tomber des flocons. « Viens voir à travers le verre, Gerda !» dit Kay. Les flocons à travers la loupe paraissaient beaucoup plus gros. Ils formaient des hexagones, des octogones et autres figures géométriques. « Regarde !» dit Kay. « Comme c'est arrangé avec art et régularité. N'est-ce pas bien plus intéressant que des fleurs ? Ici, pas à côté de l'étoile qui dépasse de l'autre, tout est symétrique. Il est fâcheux que cela fonde si vite. S'il en était autrement, il n'y aurait rien de plus beau qu'un flocon de neige. » Le lendemain, il vint avec ses gants de fourrure et son traîneau sur le dos. Il cria aux oreilles de Gerda comme tout joyeux de la laisser seule. « On m'a permis d'aller sur la grande place où jouent les autres garçons !» Aussitôt, il disparut. Là, sur la grande place, les gamins hardis attachaient leurs traîneaux aux charrettes des paysans et se faisaient ainsi traîner un bout de chemin. C'était une excellente manière de voyager. Kay et les autres étaient en train de s'amuser quand survint un grand traîneau peint en blanc. On y voyait assis un personnage couvert d'une épaisse fourrure blanche, coiffé de même. Le traîneau fit deux fois le tour de la place. Kay y attacha le sien et se fit promener ainsi. Le grand traîneau alla plus vite, encore plus vite. Il quitta la place et fila par la grande rue. Le personnage qui le conduisait se retourna et fit à Kay un signe de tête amical, comme si c'était des connaissances. Chaque fois que Kay voulait détacher son traîneau, le personnage le regardait en lui adressant un de ses signes de tête. Et Kay subjugué restait tranquille. Les voilà qui sortent des portes de la ville. La neige commençait à tomber à force. Le pauvre petit garçon ne voyait plus à deux pas devant lui et toujours on courait avec plus de rapidité. La peur le prit. Il dénoua enfin la corde qui liait son traîneau à l'autre. Mais il n'y eut rien de changé. Son petit véhicule était comme rivé au grand traîneau qui allait comme le vent. Kay se mit à crier au secours. Personne ne l'entendit. La neige tombait de plus en plus épaisse. Le traîneau volait dans une course vertigineuse. Parfois, il avait un chaos comme si l'on sautait par-dessus un fossé ou par-dessus une haie. On n'avait pas le temps de les voir. Kay était dans l'épouvante. Il voulut prier, dire son pater. Il n'en put retrouver les paroles. Au lieu de réciter le pater, il récitait la table de multiplication et le malheureux enfant se désolait. Les flocons tombaient de plus en plus durs. Ils devenaient de plus en plus gros. À la fin, on eut dit des poules blanches aux plumes hérissées. Tout d'un coup, le traîneau tourna de côté et s'arrêta. La personne qui le conduisait se leva. Ses épaisses fourrures qui la couvraient étaient toutes de neige d'une blancheur éclatante. Cette personne était une très grande dame. C'était la reine des neiges. « Nous avons été bons au train, » dit-elle. « Malgré cela, je vois que tu vas geler, mon ami Kay. Viens donc te mettre sous mes fourrures de peau d'ours. » Elle le prit, le plaça à côté d'elle, rabattit sur lui son manteau. Elle avait beau parler de ses peaux d'ours, Kay crut s'enfoncer dans une masse de neige. « As-tu encore froid ?» dit-elle. Elle l'embrassa sur le front. Le baiser était plus froid que la glace et lui pénétra jusqu'au cœur qui était déjà à moitié glacé. Il se sentit sur le point de rendre l'âme, mais ce ne fut que la sensation d'un instant. Il se trouva ensuite tout réconforté et n'éprouva plus aucun frisson. « Mon traîneau » dit-il. « N'oublie pas mon traîneau !» C'est à quoi il avait pensé d'abord en revenant à lui. Une des poules blanches qui voltigeait dans l'air fut attelée au traîneau de l'enfant. Elle suivit sans peine le grand traîneau qui continua sa course. La reine des neiges donna à Kay un second baiser. Il n'eut plus alors le moindre souvenir pour la petite Gerda, pour la grand-mère, ni pour les siens. « Maintenant je ne t'embrasserai plus, dit-elle, car un nouveau baiser serait la mort. » Kay la regarda en face, l'éclatante souveraine. Qu'elle était belle. On ne pouvait imaginer un visage plus gracieux et plus séduisant. Elle ne lui parut plus formée de glace comme la première fois qu'il l'avait vue devant la fenêtre de la mansarde et qu'elle lui avait fait un signe amical. Elle ne lui inspirait aucune crainte. Il lui raconta qu'il connaissait le calcul de tête et même par fraction et qu'il savait le nombre juste des habitants et des lieux carrés du pays. La reine souriait en l'écoutant. Kay se dit que ce n'était peut-être pas assez de ses connaissances dont il était si fier. Il regarda dans le vaste espace désert. Il se vit emporté avec elle vers les nuages noirs. La tempête sifflait, hurlait. C'était une mélodie sauvage comme celle des antiques chants de combat. Ils passèrent par-dessus les bois, les lacs, la mer et les continents. Ils entendirent au-dessous d'eux hurler les loups, souffler les ouragans, rouler les avalanches. Au-dessus volaient les corneilles aux cris discordants. Mais plus loin, brillait la lune dans sa splendide clarté. Kay admirait les beautés de la longue nuit d'hiver. Le jour venu, il s'endormit au pied de la Reine des Neiges. À suivre, le jardin de la femme qui savait faire des enchantements. Merci à tous de votre écoute, c'était Bord de Seine, une émission présentée par Tiffen. Vous pourrez nous retrouver sur le site Esprit Occitanie ainsi que sur notre chaîne YouTube et sur notre application. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau Bord de Seine.